Le nom des Français tiendra, le nom des Français tiendra, le nom des Français tiendra, mamita mia, le nom passera, le nom passera. Et leur maudite commission, et leur maudite commission, et leur maudite commission, mamita mia, nous la chasserons, nous la chasserons. Alors la démocratie, alors la démocratie, alors la démocratie, mamita mia, sera rétablie, sera rétablie. El no de los franceses, el no de los franceses, el no de los franceses, mamita mía, si no le pasa, si no le pasa. ¿Por qué no quieren estar? ¿Por qué no quieren estar? ¿Por qué no quieren estar, mamita mía, ultraliberal, ultraliberal? Salut, c'était un message du mouton noir de Gâtine, depuis son repère de Châtillon-sur-Touet, dans les Deux-Chèvres.
L'Europe fait d'abord petit, puis grand, puis puissant, puis serein, puis gagnant. L'Europe, c'est l'union, la fraternité. L'Europe, c'est un mélange, un océan. Et la Constitution n'en est uniquement la énième goutte. Les lois, les peuples, ensemble, l'abreuveront. Voilà, juste pour vous dire que pour moi, l'Europe, c'est notre avenir. J'y crois et je la vis pleinement. Lucie, 24 ans, européenne.
Je vous téléphone d'Avignon. J'enseigne à l'université. Et au sujet de la construction de l'Europe, je voulais faire deux remarques. Je me reporte à des discours de Robert Schuman le 9 mai 1950 et à Jean Monnet, président de la Haute Autorité de la CECA. Voilà ce qu'il disait. Donc ce sont deux apôtres du libéralisme. Et il précisait dans ses discours, donc du 9 mai 50 pour Robert Schuman, l'égalisation dans le progrès des conditions de vie de la main-d'œuvre de ces industries, etc. Quant à Jean Monnet, voilà ce qu'il disait. On ne peut demander aux travailleurs de s'associer aux transformations nécessaires que s'ils ont l'assurance non seulement que tous les moyens seront mis en œuvre pour les mettre à l'abri des charges de la réadaptation, mais aussi qu'ils bénéficieront personnellement du progrès général que ces transformations entraînent. J'ai l'impression, en quelque sorte, que les partisans du oui et de l'Europe libérale ont totalement oublié ces recommandations de nos pères fondateurs de l'Europe. Bonne continuation, à bientôt, au revoir.
Je suis cadre commercial retraité, j'ai 80 ans, j'habite Villiers-sur-Marne. Le traité qu'on nous propose, une économie de guerre, concurrence sauvage, dumping, fermeture d'usines, délocalisation, chômage, restriction des acquis sociaux. Si le oui passe dimanche, à court ou moyen terme, je serai plus là pour le voir, la France et d'autres pays européens auront le choix entre quitter l'Union ou affronter une grave crise intérieure. Salut.
Oui, salut Daniel et bonjour à tous. Bien, moi aussi je suis de gauche et je ne supporte plus ce petit calcul pour cette fin de semaine qui consiste simplement à nuire à très court terme aux politiques libérales de l'Europe. Alors, s'il vous plaît, ne soyons pas petits joueurs, nous à gauche, et dotons-nous, s'il vous plaît, des outils démocratiques qui peuvent nous permettre d'infléchir les politiques en s'appuyant sur le désir de justice sociale des peuples européens. Soyons courageux. Et voyons un peu plus loin que dimanche prochain et votons oui, simplement. Thierry de Bruxelles.
Oui, bonjour à tous, je m'appelle Martine Véo. J'ai été très attentive à la lecture sociale que vous avez apportée hier aux transports internationaux à l'émission de lundi soir. Je vous appelle, moi, de Chamonix, toi de l'Europe. 1 million de pachydermes mécaniques violent le site qu'on devrait regarder comme un mirage au regard du réchauffement planétaire en cours. J'apporterai donc une lecture environnementale concomitante à celle que vous nous avez suggérée. Si comparaison n'est pas raison, la métaphore est un outil indispensable à prendre de la hauteur. Le tout routier est à l'Europe ce que la circulation sanguine est à un organisme animal. Elle absorbe et dénonce à la fois toutes les tares qu'elle transporte. Au regard de quoi, ici, au toit de l'Europe, il est clairement impossible de dire oui à l'Europe et non au tout routier. L'équation est insoluble. Au-delà de la lecture des textes, sachons avant tout lire la réalité. Ici, le développement durable n'a de durable que les millions de tonnes de béton. Pensez seulement que cette Europe, qui prétend gouverner l'homme en harmonie avec son île, la nature, ne peut pas, même si elle le voulait, honorer ce principe, article numéro 3 de la Constitution. Car l'Europe ne dispose que du tout routier, seul appareil circulatoire de l'ensemble. Quand bien même elle serait de bonne foi, l'asphyxie routière ne peut qu'aller grandissant. Voilà. Si le toit de l'Europe n'est pas à l'abri, qu'en sera-t-il de Clanque de Zoute ? Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, les pouvoirs conservateurs ont proprement rayé les mots futurs et générations à venir de leur vocabulaire. Paradoxe majeur, ils conservent ce qui détruit le futur. Voilà le nœud gordien. Merci, au revoir. Je m'appelle Martine.
Eh bien, moi, je sais plus du tout où j'en suis, hein. À propos de l'ultimatum, pardon, du référendum du 29. D'un côté, il y a les hollando-sarkozistes, de l'autre, les jospino-chiraciens. Et moi qui avais l'intention de voter non, je suis quoi, moi? Un lepéniste de gauche ou un gaucho-lepéniste? C'est compliqué, hein? Enfin, bon courage à tous. On verra tout ça dimanche soir. Allez, salut, c'était Pierre de Lyon.
Et salut Daniel, bonjour. C'est Roger de la Haute-Vallée de l'Aude. Alors, ben voilà. D'abord, petite chose. Dans mon village, ben, il y avait les panneaux pour les affichages, pour le référendum rapport à l'Europe. Et ben, il y a juste deux affiches. Une affiche oui, une affiche non. Quel que soit le parti, je dis, putain, mais c'est génial. Il y a plus toute cette pléthore d'affiches, toi. Parce que, surtout, c'est que le débat, il a lieu entre les gens. Et il a lieu aussi dans mon petit village. Voilà.
Voilà, voilà. Le débat a lieu dans mon petit village. Oui, c'est descendu, c'est allé très, très profond. Et c'est très profond dans la France profonde, ce débat. À en juger au moins sur... En écoutant le répondeur, l'euro-pondeur de la basse J'y suis, où on a une quantité incessante de messages, avec des déclarations, il y a des vrais, véritables discours, électoraux, on a l'impression que vous êtes transformé en tribun devant votre téléphone ou votre portable, il y a des avis très circonstanciés, des analyses très précises de chaque article, des renvois, il y a des coups de gueule, il y a de tout, et je sais pas si nos amis de l'hebdomadaire Politis ont raison de parler d'une insurrection démocratique, c'est le titre qu'ils donnent à leur numéro de cette semaine, mais enfin c'est quand même, ça ressemble beaucoup à ça. Alors on va s'en faire l'écho à nouveau aujourd'hui en se baladant dans deux marchés. Et pour une fois, c'est pas quand on dit marché, pour l'instant, on pense pas tout de suite à ouverture des marchés, mais on pense à des vrais marchés. Et on va se balader à Montreuil, à côté de Paris, dans le marché de la Croix-Chavaux à Montreuil, et puis aussi à Guingamp, en Bretagne, et puis on pourra comparer les expressions des uns et des autres sur ces deux marchés. Je voulais au passage remercier les spectateurs qui sont venus hier nous voir et nous applaudir, et rigoler au théâtre de Jazet. Vous étiez à peu près 500, et on vous remercie. Et puis dans les semaines qui viennent, et ben on diffusera le procès pour de rire de Nicolas Sarkozy. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la voix, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, je suis portugais, j'ai 39 ans, et je suis en France depuis plus de 30 ans. Alors en France, je ne pourrais pas voter au référendum. Au Portugal, je ne sais pas encore, il faut que je me renseigne. Ça serait tout de même sacrément juste et démocratique, n'est-ce pas, que nous, les immigrés portugais qui avons réellement participé à la construction de cette Europe, ne puissions pas voter. En tout cas, si je vote, c'est non, bien sûr. Bah, et pourquoi? Eh bien parce que ça fait des années que j'assiste à l'œuvre destructrice de la politique ultralibérale ici et au Portugal. L'Europe a certes aidé le Portugal à se munir d'infrastructures routières, à laisser venir certains travailler en France et ailleurs sur le continent, souvent dans des conditions difficiles. Mais et le reste? La politique imposée par Bruxelles a réduit l'économie portugaise pratiquement au seul tourisme. On est le plus grand parc de distraction de l'Europe. Destruction de l'agriculture, de la pêche, intérieur du pays désertifié au détriment du littoral, littoral bétonné, entre les mains des promoteurs immobiliers. Et certains disent que les Portugais en ont bien profité. À quel prix? Aujourd'hui, il y a là-bas presque plus de 8% de chômage. Les plus démunis sont encore plus laissés pour compte. Des millions de personnes sont surendettées. La constitution ultralibérale qu'on veut nous faire avaler de force ne fera qu'empirer les choses. Et puis l'esprit de l'Europe, est-ce qu'il est dans les arguments du oui français? La France aura plus de pouvoir si Louis gagne. La France sera mise à l'index et aura moins de pouvoir si le non gagne. Non. Voter non, c'est laisser la place à la mise en place d'une constitution plus solidaire et sociale, ne consacrant pas encore plus le pouvoir des grands pays et des nantis, les financiers, politiques, médias, grands industriels. Salut, c'est Emmanuel de Montargis.
Celui qui dit aujourd'hui, en 2005, que le marché est capable de se réguler tout seul et que la concurrence libre et non faussée est de nature à apporter la prospérité à tout le monde, ainsi qu'à résorber le chômage, celui-là est un menteur. Et celui qui le croit est un imbécile.
Docteur Balkenstein. Docteur Balkenstein.
Oui, Igor.
Je vous apporte le cerveau de Robert Schumann, maître.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bercy, j'y suis, avec Olivia Gesbert, les Montreuillois et les Guingampais, une émission libre et non faussée.
Alors, 5, 7, 20, s'il vous plaît. Voilà.
Certains jours, on se marche un peu sur les pieds parce qu'on est très nombreux. Et aujourd'hui, il y a un peu d'espace entre les
partisans de nous sont souvent très virulents. Mais bon, ils défendent leurs arguments. Des fois, le temps monte. En Guélade, on n'est pas arrivé jusque-là. En tout cas, pas du côté des partisans de nous.
Bon, on va continuer par là.
Et le marché de la Croix-de-Chabot, c'est le marché central de Montreuil ?
Il y a plusieurs marchés à Montreuil, 6 ou 7, je crois. Et la Croix-de-Chabot est en plein centre-ville. Donc c'est un des plus grands et c'est celui où on parle le plus de politique. Là, on est toujours au milieu des frites quand je vois des tracts là-bas.
Voilà, nous voilà au marché de la Croix-de-Chabot à Montreuil, à côté de Paris. Et on va se balader avec ceux qui, depuis des semaines, de marché en marché, distribuent des tracts. Et hommage à tous ceux qui sont engagés, qu'ils soient de gauche, de droite, de oui-oui, de non-non, de oui-non, de non-oui, etc. Parce que c'est sympathique d'avoir ce courage de descendre dans la rue et de distribuer des tracts, quitte à se faire engueuler, à se faire des ennemis. Mais cette conviction, cet engagement, encore une fois, des uns et des autres, mérite de te saluer. Et ça nous change quand même de cette façon de faire de la politique derrière des écrans, hein, la politique de l'écran. Et c'est vrai que muré dans son autisme hautain, l'élite politico-médiatique actuellement est très contrariée et très fâchée par ce peuple qui regimbe et qui se rebiffe. Il faut dire que cette France d'en bas, qui si longtemps a grogné, eh ben pour ce printemps belle, ça change un petit peu. Sans attendre que les sociologues et historiens nous disent un beau jour ce qui se passe actuellement, qui sera passé dans cette campagne qui aura précédé le 29 mai, il n'est pas bien compliqué de comprendre qu'il y a là un clivage qui était déjà lisible et visible depuis longtemps, mais qui cette fois se montre dans toute sa lumière, entre une France qui vit et survit dans l'insécurité sociale, qui est menacée ou touchée par la mondialisation libérale, et celle qui ne l'est pas, qui n'est pas concernée ou qui n'est pas menacée, et qui, ou au contraire, à qui cela profite. Et c'est ça qui, en partie, et en partie sans doute décisive, explique et motive les positions, les votes des uns et des autres, autant, sinon davantage, que ce que nous supposons être notre influence à nous autres gens de médias. Voilà, c'est jusqu'à 18h, c'est là-bas, j'y suis, les Montreuillois et les Guingampais.
2, 3, 4.
de ma vie jusqu'au samedi. Moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que laisser passer tous les autres. J'ai pas fait de vagues et là je me dis, j'étais de ce qu'on obéit. J'ai pas fait de vagues et j'ai comment dit, je n'ai rien dit. Moi j'ai fait que suivre les bœufs, pas fait l'anguille, j'ai fait la queue. J'avais pas la haine et le cœur léger. J'ai pas nagé, j'avais pas la haine, oh je sais que j'ai jamais plongé. D'ailleurs dans les vagues s'est faufilé tous les câbles qui m'ont roulé. Oui dans les vagues, moi j'ai pas vu ceux qui m'en voulaient. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Tasse en tasse, j'ai tout avalé, sentir la note salée. J'ai dit c'est bon, j'ai dit bonsoir, d'une note pleine d'espoir. J'ai dit c'est bon et c'est dans le noir que j'ai vomi dans un mouchoir. Pour mon silence et pour mon absence, j'avais reçu des récompenses. Oui, en guise de messager, moi j'ai dit tout va s'arranger. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Si tu veux faire un tour du monde, il te faut rentrer dans la ronde. Si tu veux faire un tour du monde, il te faut pas perdre une seconde. Si tu veux faire un tour du monde, il te faut rentrer dans la ronde. Si tu veux faire un tour du monde, il te faut pas perdre une seconde.
Je me suis lancé.
Ah, il y a toujours beaucoup d'animation. Mais là, je vois que la population, effectivement, elle veut utiliser sa possibilité d'expression pour dimanche prochain. Parce que là, le vécu, il est difficile. Et on voit qu'avec tout ce qui serait encore plus aggravé avec l'Europe telle qu'elle est prévue aujourd'hui, ça, c'est pas supportable dans leur vie quotidienne. Donc j'espère qu'ils l'exprimeront, qu'ils diront non à ce projet-là, pour que ça ouvre les portes pour une Europe qui est, où la place de chacun soit effectivement reconnue.
Vous votez quoi, madame? Oui ou non?
Non.
Non? Bah non alors.
Vous l'avez eu ce
Est-ce que ça sera la même? J'ai une question à vous poser. Oui, ça sera la même chose pour les immigrés?
En tout cas, il faut qu'il y ait vraiment une Europe qui prenne en compte tous les besoins des peuples et pas la mise en concurrence de ces peuples. Et pour le moment, c'est bien ce qui m'inquiète.
Veut savoir.
C'est un petit peu difficile
c'est
en ce moment.
C'est un peu trop dur là.
Oui, je crois.
Je pense que c'est dur. On ne voit pas réellement ce qui se passe. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas voter. Franchement, je n'ai même pas regardé. Je l'ai reçu, mais je n'ai même pas regardé. Justement, je prends des papiers là pour rentrer à la maison, pour voir ce qui se passe et tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent, le oui, le non, pour prendre une petite image pour plus tard et c'est tout.
Je sens un petit peu plus de précision dans le sens des votes. On veut être reconnu, entendu dans la vie quotidienne et beaucoup qui semblent dire qu'ils voteront non. Mais on verra bien dimanche.
Ah, il y a pas mal de conversations qui finissent comme ça. On verra bien dimanche en ce moment. Hein. Sinon, toutes les conversations. Alors, c'est plus ou moins chaud, on se fâche plus ou moins. Mais enfin, quand même, il y a un extraordinaire moment. Là, on vit un moment effectivement formidable. Il faut pas le louper. Il faut le vivre à fond ce moment. En attendant dimanche, on verra bien dimanche. Donc là, on est avec Olivia Cesbert dans ce marché du dimanche matin à Montreuil, exactement à la Croix de Chavaux.
Ah, il a fait une grave erreur. Hein.
Il a fait une grave erreur.
Non, je suis pour le oui. Bah, moi, je sais que depuis 50 ans, il n'y a plus de guerre et puis l'Europe vit en paix. Déjà, c'est une grande chose. Quoi. Il faudrait juste pour cette chose-là. Voter oui, je ne comprends pas qu'en France, il y ait autant de gens qui votent non. Et surtout des jeunes. Pas mal de jeunes qui votent non, mais je reste.
Non, mais moi, je ne trouve pas que la Constitution aujourd'hui, ce sera plus de stabilité. C'est-à-dire que quand on regarde dans la Constitution, on demande aux différents États d'augmenter le budget de l'armement, on dit qu'on reste dans le cadre de l'OTAN, on dit qu'il va falloir faire plus de contrôle aux frontières de l'Union européenne, on dit qu'il va falloir lutter contre le terrorisme. Il faut m'excuser, mais c'est le même discours que Bush, quoi. Et Bush, c'est pas moins de guerre, c'est plus de guerre.
Oui, mais quand vous voyez des pays comme la Chine, comme l'Inde, ou même comme les États-Unis, qui ont des budgets énormes, je vois pas ce que la France seule va pouvoir faire face avec des pays comme ça.
Elle s'est pas noyée, la France, jusqu'ici, face à la Chine.
Oui, mais il n'y a que l'Union qui fera la force, c'est-à-dire être avec des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre. Et c'est dommage, je crois que Chirac a fait une grave erreur, c'est dur à dire, de demander au peuple de choisir.
Oui, mais c'est limite une insulte ce que vous êtes en train de faire en termes de comparaison, quoi.
Bah, c'est cette comparaison, on arrive en arrière.
Je ne suis pas isolée du reste, hein. Vous savez, j'ai participé à des manifestations au niveau européen, voire international. J'ai manifesté contre la guerre en Irak, on était des millions à travers le monde. J'ai participé au forum socio-européen, et il y avait des gens de toute l'Europe et d'ailleurs qui étaient présents, etc. Moi, je ne serais pas isolée si je vote non. Je suis désolée. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui s'isolent, c'est justement ceux qui sont en train de voter oui. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que justement, il nous faut une Europe forte par rapport au reste du monde. Mais moi, je suis désolée, j'ai plus d'intérêt avec les petits Chinois qui aujourd'hui se font surexploiter qu'avec le patron de Total qui fait des bénéfices records, qui se permet de licencier des gens. Voilà. Et on est en train de dire, on va se mettre d'accord avec le patron de Total pour faire plus de contrôle aux frontières, augmenter les budgets de l'armement, casser plus les services publics, etc. Parce qu'il va falloir faire la concurrence aux Chinois. Mais je suis désolée, moi je rentre pas dans ce jeu-là. C'est pas mon intérêt.
Vous êtes d'accord avec ce que dit le monsieur ?
Merci, monsieur.
Merci. Au revoir.
Non, je suis pas d'accord. Moi je suis pour le non.
Ah, pourquoi vous êtes pour le non ?
Ce que je vois surtout les pays de l'Est qu'ils vont rentrer. Ça fait mal à la France.
Ils sont déjà rentrés, les pays de l'Est.
Bah, ils ont rentré, mais quand vous faites la Constitution, ça fait pire. Moi, je suis pour le non. Toute la famille, c'est pour le non. Toute la famille. Il y en a 6, on va voter, c'est pour le non. Moi, j'ai vu des gens, il y a des Roumaniens qui travaillent ici, il y en a des Slaves qui travaillent ici, et ils ont dit que la France est le paradis par rapport à nous. Nous, on travaille avec 100 euros par mois, on est dans la misère, et le jour où on fait la Constitution, la moitié de la Pologne et la Roumanie, ils vont descendre là. C'est ça qu'ils m'ont dit. Ils nous font peur, c'est vrai. Parce que moi, j'ai mon fils, il a le bac, il a 3 ans. Après le bac dans l'informatique, il y a 2 ans qu'il ne travaille pas. Il n'a pas trouvé. C'est une nationalité française, il est né en France, il est tout. Et il n'a pas trouvé du travail. On a fait des centaines de CV, on a envoyé, personne qui veut l'apprendre. Moi, à mon avis, moi j'ai 40 ans ici en France. À mon avis, en ce moment, la France, il faut qu'elle ferme la porte des immigrés. Parce qu'avant, on trouve du travail, c'est eux qui nous apportaient avec du contrat. C'est pas moi qui est venu comme ça, on est venu avec contrat.
Parce qu'on vous appelait, quoi.
Voilà, exactement, c'est eux qui nous appelaient. Mais en ce moment, elle est pleine, elle n'a pas besoin.
Et oui, mais c'est un vieux principe, ça, hein. La vieille loi de l'immigration qui veut que le dernier entré ferme la porte. On a entendu cette musique-là depuis fort longtemps, c'est très très courant. Alors bien sûr que ceux qui ont le projet de voter non se trouvent condamnés en poujadisme. On les traite de poujadistes puisque ils jouent le coup de la France aux Français, hein, la préférence nationale. C'est oublier qu'effectivement il y a eu, et ce monsieur en témoigne, une immigration du Maghreb par exemple, ou d'autres pays, je pense au Portugal, il y avait cet auditeur d'origine portugaise tout à l'heure qui s'exprimait très clairement dans les messages sur les bienfaits de l'Europe vis-à-vis de son pays, de ce petit pays qu'est le Portugal, les bienfaits et la destruction aussi que cette Union européenne a pu engendrer dans son pays. Mais lorsque les Portugais, par exemple, sont venus travailler en France, c'est vrai que cette immigration-là était avec contrat, et les Portugais qui venaient travailler ici étaient payés comme des Français, et non pas les Français comme des Portugais. C'est toute la question actuelle du dumping social, et qui est au cœur de cette inquiétude et de cette ce sentiment d'insécurité sociale. Et puis il y a aussi la question du sentiment national, qui est aussi quelque chose de très profond et qui se trouve ébranlé par par la question actuelle du référendum. C'est un écho qu'on peut entendre, par exemple, à Guingamp, en Bretagne, dans ce marché.
Messieurs, dames, pardon, bonjour, cette constitution, est-ce que vous avez vu qu'il y a des militants qui tractent partout pour essayer de vous convaincre d'aller voter oui ou d'aller voter non?
Oui.
À cette constitution? Ah, vous en avez un dans la poche.
Ouais, ouais.
C'est pour un oui ou pour un non dans cette poche-là?
Pour qui?
À gauche?
C'est pour qui
la non?
Pour qui? Ah, c'est non.
C'est non. Vous allez voter.
Qu'est-ce que ça va nous rapporter, le oui et le non? On n'aura pas grand changement, si. Pour l'Europe, peut-être, mais... C'est-à-dire que si on passe à l'Europe, est-ce qu'on va être resté français? C'est ça la question, parce que l'Europe, c'est qui? C'est Bruxelles.
Et vous êtes breton, vous?
Oui, je suis breton.
Est-ce qu'on va rester breton aussi, en
ben
plus?
Voilà. C'est ça le problème, quoi. Je dis franchement, je ne sais pas... Oui, non, je ne sais pas. Enfin, est-ce que les Français vont commander? Est-ce que c'est nous qui commanderons la France? Ou est-ce que c'est l'Europe qui nous commandera?
Ça vous embêterait si c'était l'Europe qui nous commandait?
Bah, je ne sais pas trop. Hein. Vous savez, j'ai fait l'Algérie, moi. Hein. J'ai vu un peu comment ça se passait là-bas. C'était les Français qui commandaient, mais ça a été le contraire à la fin. Il y avait un soulèvement, quoi. Alors, est-ce que ça ne va pas se produire en France? Pas commander, quoi.
Ça, c'est ce que nous dit le Front National, par exemple. Votons non parce que. Ou Villiers, hein, monsieur Villiers. Ils nous disent votons non.
Qui voulait envahir? Il n'y a pas les Chinois. Hein.
Il n'y a pas quoi?
Par les Chinois qu'on est envahis par sur les marchés. D'abord, qu'est-ce qu'on achète maintenant? C'est Chinois. Hein.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, sans indiscrétion?
Moi, je suis retraité de charpente.
Vous étiez dans la charpente?
Oui.
Ça va, vous touchez une bonne retraite?
Ah, la retraite n'est pas forte. Hein. Oui. On fait avec, quoi, mais c'est pareil. Est-ce que ça va augmenter les retraites? Et est-ce qu'il y en aura des retraites plus jeunes?
Avec l'Europe et la Constitution européenne?
Ça va venir, je pense, comme vous avez déjà on en parlait quand j'étais au quand je suis parti en retraite, il va falloir faire sa retraite soi-même. C'est ce qui va arriver, hein. Je pense. Hein.
Vous l'avez reçu, cette Constitution, dans votre boîte aux lettres?
Oui, je l'ai lu, mais je l'ai pas lu.
Vous l'avez reçu, mais vous l'avez
pas
lu?
Oui, je l'ai pas lu.
Et vous avez envie de la lire ou
Oh, peut-être, si je trouve un moment pour la lire, mais il y a pas mal à lire. Ouais. Non, on verra ça le 29, mais je ne sais pas. Je ne suis pas fixé encore pour l'instant.
Merci à vous. Hein. Au revoir, monsieur. On est dans notre marché de Guingamp avec les Guingampais. Et vous êtes Raoul Marc Génard. Vous avez écrit un livre sur la trahison des élites.
Le titre exact, c'est « Europe, la trahison des élites ». Et j'ai essayé de démontrer une affirmation de Pierre Bourdieu qui disait « L'Europe ne dit pas ce qu'elle fait, ne fait pas ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle ne dit pas, elle dit ce qu'elle ne fait pas ». L'Europe qu'on nous construit, disait Pierre Bourdieu, est une Europe en trompe-l'œil. C'est-à-dire que le projet européen tel qu'on nous l'a présenté à partir de 1957, c'est-à-dire unir des peuples dans une construction politique démocratique, s'est avéré être la création d'un marché où dominent les marchands et les banquiers. On a des acteurs européens, les élites politiques, les élites financières, les élites médiatiques, qui nous présentent une Europe, je vais dire pour faire bref, humaniste, solidaire, généreuse, et qui s'avère être dans le concret tout autre chose, qui ressemble beaucoup plus à l'égoïsme et à l'arrogance dont les États-Unis d'Amérique nous offrent l'image.
Et alors, vous faites partie de ceux qui, quand même, en ce moment, font campagne pour ce nom. Et si on reprend les propos de notre Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, émis mercredi dernier, vous risquez de semer le chaos, une crise politique qui pourrait engendrer une crise économique à long terme. Vous êtes un peu peut-être embêté par ça, non?
Moi, j'ai pas le sentiment de semer la pagaille, j'ai plutôt le sentiment de fournir les éléments du débat, puisque mon rôle, je le limite à ce que j'appelle du décodage d'un texte qui est pour l'essentiel inintelligible. Quant au prophète de malheur qui annonce les pires choses, que ce soit des gens de droite qui le fassent, c'est classique. Dans l'histoire politique des pays d'Europe, ce sont toujours les gens de droite qui ont fait appel aux sentiments, aux passions, et à la peur pour essayer de faire en sorte que les peuples suivent les attentes des dirigeants. Ce qui est plus consternant, c'est que des gens de gauche utilisent les mêmes méthodes, alors que classiquement, j'ai envie de dire, être de gauche, c'est faire appel à la raison et à l'intelligence. Mais de toute façon, si ce traité n'est pas accepté, il n'y a pas le chaos du tout. Les institutions en place continuent de fonctionner. Les traités, il y en a 5, continuent de fonctionner. On dispose aujourd'hui de ce qu'on appelle dans le jargon l'acquis communautaire. Eh bien, il continue de produire ses effets. Il n'y avait vraiment pas de quoi céder à la panique que veulent créer ceux qui attendent qu'on obéisse à leurs injonctions.
Deux comme ça pour 5 euros.
Très bien, c'est 4
euros. Non, c'est à 6 euros, excusez-moi.
Moi, je suis une citoyenne lambda, pas du tout à aucun parti. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie avant.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivée, là?
Qu'est-ce qui me motive?
Vous distribuez des tracts pour le
voilà.
Nom.
Alors, je ne faisais pas de politique, seulement je me suis mise à regarder toutes les émissions à la télé. Je me considère pas trop bête, mais j'aime pas qu'on me fasse passer pour une imbécile. Alors, quand on dit, on vous donne la possibilité d'un oui ou d'un non, et qu'après on me dit « mais vous ne pouvez pas voter non », je pense qu'on me prend pour une andouille. Déjà, tu veux un morceau de chocolat, tu as le droit de me dire oui ou de me dire non. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on veut nous faire avaler des couleuvres. Enfin, moi, je me considère comme quelqu'un qui n'y connaît rien et qui cherche à comprendre. Mais les gens qui n'ont pas mon caractère un peu fou, là, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Je me mets à leur place.
Pourquoi d'ailleurs, à votre avis, Raoul Marc Génard? Est-ce que c'est exprès, cette constitution qui fait 800 pages? C'est exprès, ces mots compliqués, ces alinéas, ces paragraphes, ces mille et un renvois
Mais je pense que c'est le résultat d'un choix. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une constitution? C'est un texte court, précis, accessible par le plus grand nombre et qui rassemble. Le texte qu'on nous propose, et on a décidé de nous proposer ce texte-là et pas un autre, il est long, il est confus, il est illisible pour la plus grande majorité des gens, et il divise. C'est une garantie de conforter son pouvoir. Les élites dirigeantes, le monde des affaires, le monde politique et une partie importante du monde médiatique sont coupées des réalités. On a vraiment le sentiment, quand on parcourt la France comme je le fais depuis 10 mois, que entre ces élites et le peuple français, il y a un immense fossé. Et ce qu'il faut regretter, c'est que la langue de bois est devenue la langue officielle des dirigeants et qu'ils parlent dans le même pays à un peuple une autre langue que la langue du peuple.
Moi, il y a une expression qui se retrouve dans la Constitution qui a le droit de travailler, mais c'est complètement aberrant. Aberrant de dire le droit de travailler. Tout le monde a le droit de travailler. Mais le problème, c'est le droit au travail.
Ça, c'est du concret.
Tout à fait. Le droit au logement, comme le droit au travail, ne sont pas consacrés dans la Constitution. Or, qu'est-ce que ça veut dire, consacrer un droit? En fait, quand un État ou une organisation internationale, parce que quelque part, l'Union européenne, c'est encore ça, consacre un droit, c'est-à-dire qu'il se crée une obligation. Si vous dites le droit au travail, c'est l'obligation de tout faire pour créer un maximum d'emplois. Si vous dites le droit au logement, c'est l'obligation que se donnent les pouvoirs publics de créer un maximum de logements pour que chacun ait l'abri auquel il a droit. C'est totalement différent que de dire le droit de travailler, c'est-à-dire la permission, c'est pas interdit, c'est permis. Merci, ils sont très gentils, les auteurs de la Constitution.
Vous êtes sûr que ça veut vraiment dire ça? Pourquoi ils l'ont écrit dans ce cas? Ça serait ridicule. On sait bien qu'on a le droit d'aller travailler.
Ils l'ont écrit parce qu'ils voulaient mentionner le mot travail avec le mot droit et créer une confusion.
Est-ce que vous avez une salade à portée de main là-dessus?
Jean-Claude, tu me parlais hier de l'affaire des pinceaux Raphaël. Vous avez entendu ça aussi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors,
où vous êtes à la LCR?
Ben, les pinceaux Raphaël, c'est une grosse boîte
qui a racheté Lévis récemment.
Oui, qui a décidé de se délocaliser en Île-Maurice. Donc, elle est obligée à Rennes de virer 37 personnes. Et pour que ça apparaisse comme quelque chose de social, malgré tout ce qu'on appelle un plan social, on propose à ces gens-là d'aller à l'île Maurice pour 117 euros mensuels. Alors, il y a Jospin qui nous expliquait qu'on allait devant le maire, que c'était presque un mariage avec les autres peuples, eh bien, le voyage de noces, il aura lieu pour ces travailleurs-là à l'île Maurice.
Mais il est clair que cette constitution organise la compétition, la concurrence entre les travailleurs à l'intérieur de l'Europe et aussi entre les travailleurs européens et les travailleurs du reste du monde. Quand l'article 4 proclame la liberté d'établissement et de circulation des personnes, des services, des capitaux et des marchandises, c'est bien de cela dont il s'agit dans l'espace européen. Et puis, les conditions qui sont réservées aux ressortissants des pays tiers organisent, j'ai envie de dire, pratiquement la légalisation des négriers. Et donc, de ce point de vue-là, l'idéal social européen, mais ça reste encore une perspective extrêmement lointaine. Mais j'ai le sentiment que, à partir du moment où on prend connaissance, même pas de la totalité du texte, mais d'un certain nombre de ces articles, on ne peut, si on est de bonne foi, ou alors si on défend des intérêts particuliers, c'est autre chose, mais si on a le souci de l'intérêt général, on ne peut que s'opposer à ce texte. Et donc, il y a une espèce de ligne de partage aujourd'hui qui sépare les Françaises et les Français, c'est entre ceux qui ont lu le texte et qui le rejettent, et ceux qui obéissent à des mots d'ordre sans l'avoir lu et disent il faut accepter ce texte en faisant tous les amalgames, le principal étant de confondre une adhésion à l'Europe avec une adhésion à ce texte qui n'est qu'un texte et qui n'est pas nécessairement le meilleur texte que l'Europe ait produit jusqu'à ce jour. C'est le cadeau.
Voilà, retour à Paris, enfin pas à Paris, à Montreuil, à côté de Paris, après Guingamp. Et là, autre son de cloche, il faudrait bien écouter ce qui se passe dans ces deux marchés, l'un urbain quasi parisien et l'autre à Guingamp, en Bretagne, ville. On nous le disait hier, Jean-Claude Auréjac nous le disait hier, une ville plutôt assoupie sous le poids de ces notables, avec cette suffisance et cette arrogance des élites dirigeantes qui actuellement quand même espèrent bien que cette récré, la récré des moutons noirs, prendra fin très bientôt et si possible, espère-t-il, sans trop le dire, dimanche. En attendant, on est à Montreuil avec Olivia au marché.
Presse.
Non, combien ça coûte?
1.95
for 1 kilo. Encore un nom. Il y en a beaucoup sur ce marché. Hein.
Oui, heureusement.
Mais tous les tracteurs sont rentrés. Vous n'allez pas déjeuner, vous?
Si, je m'en vais, mais j'habite par là.
Avance. Il est froissé, là. J'aime pas ça.
Bah, on a distribué, je sais pas, peut-être 1500 tracts.
J'ai retrouvé mes militants de l'UMP.
On était plus d'une dizaine aujourd'hui au marché.
Il y a le secrétaire départemental Claude Schmierer qui est passé avec la petite caravane qui a fait un tour. On a pris des photos. On a parlé avec les gens. On a même été dans certaines boutiques, faire la campagne, discuter avec des artisans, des gens d'issue.
Alors qu'est-ce qu'ils en pensent, les artisans?
Au départ, moi j'en ai vu trois. Ils étaient plutôt pour le non, les trois, c'est vrai. Et à la fin, je pense qu'on a fait 50-50. Il y en a un qui était pour le oui, un qui était pour le non, et un autre qui va réfléchir encore.
C'est du 50-50.
C'est quand même encourageant qu'à Montreuil, dans une ville ultra à gauche, ce soit du 50-50. Ça veut dire que dans le reste de la France, ça va passer. Ce sera oui, quoi. Mm. Donc le oui passera.
Mais quel oui, hein?
Le oui à l'Europe.
Un oui de gauche ou un oui de droite?
C'est pas ni un oui de gauche ni un oui de droite, c'est un oui à l'Europe, un oui à notre avenir.
Vous pensez que si on vote non, on est forcément contre l'Europe?
Quand même, parce qu'on ne propose rien. On ne propose rien pour l'Europe.
ça fait 50 ans qu'on nous bassine en nous disant bon bah nous on aime l'Europe, mais bon on vote non à chaque fois, mais on aime l'Europe. Bon, c'est facile d'aimer quelque chose et puis de voter contre. Ça fait 50 ans qu'on nous dit on a.
Non, veut... on vote pas contre l'Europe, on vote contre cette constitution.
Alors, en votant contre,
contre le texte qui est présenté, faut pas faire l'amalgame non plus.
Je fais l'amalgame parce que quand on nous dit on vote non à la constitution, on nous dit on va renégocier, on va faire une autre Europe. Le problème c'est que vraiment il y a jamais eu d'autres projets alternatifs. S'ils veulent une autre Europe, qu'ils nous proposent quelque chose, mais il y a jamais de projet. Alors c'est facile d'être contre sans rien proposer. C'est pas constructif. Ça s'est pas fait en catimini comme ça. On a, c'était pas la conférence de Yalta. Hein.
Ce qu'ils reprochent à la Constitution, bon, c'est que c'est trop libéral. Bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont mettre article 1er, moins de libéralisme. C'est tout ce qu'ils vont faire.
Alors pourquoi vous traitez d'irresponsables et d'enfants les gens qui voteraient non? À partir du moment où on pose une question,
exactement.
Pourquoi vous les laissez pas choisir entre
alors,
les deux?
Alors déjà, je suis d'accord avec vous, mais on n'a jamais traité ni d'irresponsables ni d'enfants.
Oh, pas vous, mais vos responsables.
Qui appellent à voter non, c'est parce que c'est des militants, c'est dans le feu de l'action, il y a des mots qui dépassent parfois les pensées. Mais
les gens irresponsables, c'est les partis, enfin les partis politiques qui instrumentalisent la population en disant voilà. Voter oui, si voter oui, ce sera la grande catastrophe.
Excusez-moi, ça c'est l'UMP et le Parti Socialiste qui disent ça. Encore Jean-Pierre Raffarin, mercredi dernier, m'expliquait que ça allait être une crise politique suivie d'une crise économique à long terme si le non passait.
Non, évidemment qu'il y aura une crise politique si le non l'emporte. La Constitution elle a été faite, présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Elle est d'inspiration française. C'est quand même la victoire de la vision française et pas anglo-saxonne de l'Europe. Donc ça serait un petit peu, on se tire une balle dans le pied si on dit bon, on prépare tout, on fait tout, mais bon, nous on vote non. Ça serait quand même que la France vote non et que les Anglais votent oui. Là, ça serait carrément un comble, je pense, pour l'Europe.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce traité constitutionnel a quand même une tonalité très libérale?
Non, je suis pas.
Justement, alors la grande avancée de ce traité constitutionnel, et qui n'était pas aujourd'hui, mais ce qu'on a introduit par le traité constitutionnel, c'est le développement durable, pardon, l'écologie et le social, un objectif social, protection sociale. Et on va très loin dans la politique sociale. Donc dans l'article.
Quand on parle de concurrence libre et non faussée, c'est plus qu'un objectif, cadre, c'est un programme politique. On est d'accord.
La concurrence libre et non faussée pour certains secteurs. C'est bien quand même que pour certains commerces, c'est un choix politique certes, mais c'est bien qu'on ait une concurrence libre et non faussée, mais c'est bien
donc cette constitution est politique. Alors, je vais me permettre d'écouter peut-être un autre son de cloche parce qu'apparemment vous me disiez vous.
Alors moi je suis en tant que gaulliste, j'ai rejoint le comité Montreuil-Bois pour le non. C'est plutôt, je représente un petit groupe qui s'appelle l'Union citoyenne gaulliste et qui a tenu en effet à voter non. Alors pas forcément d'ailleurs pour la raison du non. Droite. Ceci étant, le problème, c'est que, contrairement à ce que vient de dire monsieur, ce n'est pas seulement le problème du contenant et du contenu, c'est qu'il y a dans cette constitution un contenu qui bride, quoi qu'il en soit, l'initiative politique. On parle tout à l'heure du droit de grève. C'est très bien. Il faut aussi savoir, par exemple, que les employeurs auront aussi le droit de grève. C'est le lock-out. Il faut savoir, par exemple, que sur les services publics, on vous dit des services publics, le service public ne doit pas fausser la concurrence, justement, au nom de cette concurrence libre et non faussée. A priori, c'est bien. Et puis, dans les articles qui font exception, on vous redit de nouveau, par exemple, sur les questions culturelles et de protection du patrimoine, il ne faut pas aller à l'encontre de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que l'on fixe dans cette constitution, qui n'en est pas une d'ailleurs, on fixe dans cette constitution les outils que les politiques doivent mener, alors que les outils politiques sont du domaine de la démocratie.
Messieurs, je ne vais pas pouvoir refaire tout le débat maintenant sur ce marché. Merci à tous pour votre participation.
Sacré pensée.
À Guingamp, le marché va finir. On est en train de démonter. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, comme dans tous les marchés du monde? On se retrouve au bistrot.
Dès qu'on a un bâton en glace, comme ça.
Vous avez joué là tous les deux, hein. Vous êtes le nez dans les canards à regarder les résultats des courses.
Enfin, moi je joue tous les jours, on sait dire.
Vous aussi?
Oui, assez régulièrement, oui.
Vous êtes Guingampais?
Pas Guingampais d'origine.
Mais vous habitez Guingamp?
Oui. Depuis 4-5 ans. Je venais de pas loin de Guingamp, je venais d'une dizaine de kilomètres d'ici parce que j'avais perdu mon permis.
Parce que vous travaillez là, je suppose, alors?
Oui, parce que j'habitais en campagne. Là, actuellement, je suis à l'arrêt. Je suis arrêté. Paysagiste, ouvrier paysagiste. D'accord. Je suis de Lannion, moi je travaille à Guingamp.
Lannion, c'est à combien de kilomètres de Guingamp?
30 kilomètres de Guingamp.
Mais vous travaillez ici?
Je travaille à France Télécom.
Il y a une grande entreprise France Télécom ici?
Ah oui. Je suis technicien.
Dites-moi un peu à quoi ça ressemble, Guingamp.
C'est une petite ville.
C'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire qui fait vivre la région.
C'est l'activité principale d'ailleurs. C'est ce qui fait vivre le pays. Je l'ai fait quand j'ai commencé à travailler. À 18-19 ans, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. C'est dur, c'est dur. Les conditions de travail sont pénibles. À la chaîne.
Alors parlez-moi juste un peu de la ville de Guingamp. Il y a quoi? Il y a une mairie? Il y a une grande place? Comment c'est? Ça ressemble à quoi?
Oui, j'ai la mairie qui est à côté de vous, en face de vous. Là.
Ouais.
Ouais. Autrement, j'ai la place du Valis, la place du Champeroy qui est juste à côté. Là. Ouais. T'as la bibliothèque qui est un peu plus loin, qui prolonge la place. Là. Autrement, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur Guingamp? Vous avez la Saint-Loup.
C'est quoi?
C'est une fête bretonne qu'il y a tous les ans.
Ouais. Heureusement qu'il y a le foot parce que sinon on s'ennuierait un peu. Hein.
Division moyenne, quoi. Elle a eu été meilleure dans le temps, quand on était en première division, parce qu'on est redescendu en deuxième. Là.
Elle va remonter.
Je pense qu'on va remonter l'année prochaine.
Vous, vous ratez pas un match avec, en avant Guingamp, vous ratez pas
de louper un match, mais régulièrement, je vais au match. Je ne suis pas abonné, mais régulièrement, je vais au match. Ouais, ouais, il y a un stade du Roux-de-Roux. Stade du Roux-de-Roux. Ah ben, ça, il a été rénové, c'est un stade de 18 000 places. Pour deux fois la capacité de la ville de Guingamp.
Vous savez, en ce moment, il y a une campagne pour le référendum pour la Constitution. Vous, vous allez voter, ça vous intéresse?
Oui, moi, j'irai voter. Ouais. Je suis de gauche et je sais ce que je voterai.
Ah ben, expliquez-moi, parce que j'ai l'impression que la gauche, là, moi, je suis un peu déboussolé. Il y a une partie de la gauche qui va voter oui, une partie de la gauche qui va voter non.
Gauche, quoi. Ça dépend quelle gauche. Si c'est la gauche capitaliste, comme le maire, un peu, quoi. Moi, je ne suis pas de ce côté-là. Je ne suis pas adhérent à un parti politique, mais j'ai mes idées, j'ai mes convictions. Quoi.
Justement, c'est comme au foot, vous êtes sympathisant. Vous, votre parti, normalement, c'est quoi?
Socialiste.
Socialiste?
Oui, oui.
Alors là, qu'est-ce que vous faites? Parce que les socialistes sont à moitié pour le oui, à moitié pour le non. Qu'est-ce qu'on choisit?
Oh, 60 pour le non, 40 pour le oui. Ceux qui ont leur carte du parti socialiste ont voté, ils ont fait un référendum entre eux. Quoi. Bon, c'est Louis qui l'a emporté. Mais je suis pas sûr que les sympathisants de socialistes, surtout dans les régions comme Guingamp, il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de démunis, soient de cet avis-là. Je suis un Européen convaincu, mais je suis de la génération après la guerre, donc l'Europe c'est la paix, mais je ne sais pas si c'est une Europe trop libérale, qui ne tienne pas assez compte des gens les plus pauvres d'entre nous, des ouvriers, des employés.
Dans le Parisien ce matin, je dis que le fossé se creuse entre la France d'en haut et la France d'en bas. Je crois que c'est vous la France d'en bas.
Ah ouais, oui. Ce terme-là me plaît pas du tout, mais enfin, c'est prendre les gens pour des imbéciles, quoi. C'est un peu méprisant, oui. La France d'en bas, la France d'en haut, on est français comme tous les autres. Hein. Enfin, on n'est pas bien riche, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas français. Hein. On nous dit qu'après l'Europe va rester bloquée pendant 10-20 ans, mais cette Europe-là, on n'en veut pas. Hein. L'Europe du fric, ça on n'en veut pas. Hein. Parce qu'avec cette Europe-là, les services publics et tout ça, ils vont en prendre un coup. Hein. Dans le coin, il y a beaucoup de chômeurs. Par ici, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a un tiers des habitants de Guingamp qui habitent en HLM. Donc c'est des petits revenus au RMI ou des petits boulots. C'est une ville pauvre à Guingamp. Les promesses, on n'en veut plus. C'est pas écrit noir sur blanc qui ont la concurrence libre. On sait, on connaît le résultat. C'est évident que ça ne va pas nous profiter. Hein.
Alors, petite conclusion provisoire avec Jean-Claude Auréjac, qui est notre guide à Guingamp.
Je vais éloigner un peu de la musique.
À Paris et sa proche banlieue, on sent une vraie effervescence quand même sur ce référendum. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un choc Paris-région?
Il y a effectivement dans les grandes villes une implication, alors que dans nos provinces, c'est toujours les notables qui dirigent, c'est toujours les partis politiques qui ne représentent plus rien, qui sont vidés de leur sens. Les habitants, les salariés, les chômeurs, etc., n'ont pas conscience que l'Europe, ça peut les changer, ça les concerne tellement. Il y a cette fracture extraordinaire qui produit là une situation. On vit en oligarchie. Tous ces dirigeants s'entendent bien entre eux, se tiennent tous par la barbichette, et ils pensaient une fois encore que le peuple allait accepter. Eh bien non, il y a eu un mouvement extraordinaire Par exemple, dans les Côtes d'Armor, il y a bien une dizaine de collectifs qui se sont créés, qui ont lu la Constitution en public à Saint-Brieuc, et ont pu intéresser là des gens. Et eux-mêmes ont pris ça en charge. Mais ce n'est pas les partis politiques qui ont pris en charge, c'est la population.
Alors, Thierry, je n'ai pas
Alors, merci à tous. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Jean-Claude Auréjac. Et je rappelle le titre du bouquin de Raoul Marc Génard, L'Europe, la trahison des élites, chez Fayard. Et puis à lire également le dernier numéro, le numéro 24 de Fakir. Fakir, c'est quoi? C'est le journal de notre ami et collaborateur François Ruffin. Et dans Fakir, il y a notamment un article sur la liquidation de la Poste et une balade avec de jeunes colleurs d'affiches en campagne pour ou contre la Constitution. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. L'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro de l'Europondeur, c'est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. on se retrouve demain à 17h pour un nouveau Là-bas si j'y suis. Dans 37 secondes, au bout de la réclame, vous retrouverez Frédéric Bourbonneau et son charivari. Salut.